On va commencer, mesdames et messieurs. Je vous invite juste, petit rappel, à débrancher vos portables, à le mettre, alors peut-être pas en mode avion, mais en tout cas en silencieux si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça peut servir. Nicolas, si tu veux faire peut-être un petit mot d'introduction.
Eh bien bonjour. Bienvenue chez Quadrilatère. Le président de Quadrilatère, Éric Chevassu, ici présent. L'ensemble de nos équipes et moi-même vous souhaitons la bienvenue dans nos espaces pour ce premier Quad Talks. Nous avons souhaité mettre en lumière en fait les enjeux et les réflexions de nos clients lors d'un projet d'aménagement d'espace de travail. Et bah, c'est en fait le cœur de métier de Quadrilatère depuis plus de 35 ans, d'accompagner des entreprises sur des sujets de conseil, de design des espaces, de réalisation, de pilotage des travaux en clé en main, et grâce effectivement à une soixantaine d'experts, de collaborateurs intégrés au sein de nos équipes. Et bien entendu, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? C'est le sujet du mobilier, qui est une réflexion aussi croissante au sein des entreprises, notamment sur des enjeux environnementaux. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette première thématique. Et je laisse la parole aux invités et à Grégoire pour animer ce débat.
Merci beaucoup, Nicolas. Alors, mesdames et messieurs, je suis ravi d'être parmi vous pour plusieurs raisons. D'abord parce que, quelques jours près, je fête mes 10 ans de carrière et que j'ai commencé dans l'aménagement de bureaux il y a 10 ans. Donc, c'est un plaisir que d'y revenir. C'est un plaisir aussi en tant que journaliste pour Radio Immo que d'être présent et d'animer cet événement. Martin Allégouette, bonjour Martin.
Bonjour.
Alors, vous êtes fondateur et directeur du studio Blue Digo, la marketplace du mobilier reconditionné.
Exactement.
Bonjour Martin, merci beaucoup. Christophe Stark, bonjour Christophe. Alors vous êtes cofondateur et associé de Mouvement Conseil, un cabinet de conseil pionnier dans la conduite des mobilités d'entreprise, et de ID Déposition, une solution SaaS pour bénéficier d'un relevé précis et dynamique des environnements de travail. Bonjour Christophe. Et enfin, Romain Vergne. Bonjour Romain.
Bonjour.
Vous êtes le régional de l'étape, si je puis dire. Vous êtes directeur du pôle mobilier de Quadrilatère, spécialiste de la conception et de l'aménagement des espaces de travail.
C'est ça.
Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors, je suis ravi de vous recevoir tous les quatre, en fait, parce que vous avez une activité qui est bien distincte de celle de vos voisins. Et en même temps, votre activité se complète. Elle se complète toute à merveille lors d'un projet d'aménagement, plus particulièrement sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, la partie du mobilier. C'est ce qu'on va voir ensemble. Pendant un petit peu plus d'une heure, en fait, nous allons voir la place du mobilier durable dans le bureau de demain. C'est un sujet très intéressant et je vous propose de l'aborder en utilisant un thème très actuel. Il y a quelques mois, un joueur de football que nous connaissons bien, Kylian Mbappé, a dit « Le football, il a changé ». Alors ma question, utilisant cette métaphore, et c'est à vous que je l'adresse, Romain, est-ce qu'on peut dire que le mobilier, la considération que l'on a du mobilier, et son rôle dans un projet d'aménagement, eh ben, il a changé lui aussi.
Oui, complètement. Depuis maintenant quelques années, ça avait déjà commencé avant la période Covid, mais là, c'est très concret depuis qu'on est sorti du Covid. On ne peut plus, entre guillemets, distribuer du mobilier et proposer des solutions aux entreprises comme ce qui s'est fait ces dernières années. Aujourd'hui, le simple fait de vendre du mobilier n'est pas suffisant. Et il faut pouvoir accompagner les clients qui ont de plus en plus de demandes et aussi d'exigences sur comment conserver du mobilier qu'ils ont actuellement dans l'entreprise, ou comment utiliser du mobilier de seconde main, de réemploi ou issu de plateformes de valorisation. Ou alors aussi proposer du mobilier avec des matériaux innovants.
Et sauf, est-ce que vous diriez que la place du mobilier est la plus importante, notamment depuis la période Covid? Est-ce qu'il y a une vraie rupture?
Il y a une prise de conscience. C'est vrai que les gens ont pris conscience que de jeter pour acheter la même chose ou d'acheter des objets en grande quantité, de ne pas savoir ce qu'on avait et de gérer son patrimoine. Aujourd'hui, les gens sont passés sur une autre étape, c'est celle de savoir ce qu'ils ont, où c'est. Donc, quel état c'est, est-ce que je peux les réutiliser, les réemployer, et dans leur vie quotidienne, en fait,
ça ne marche pas très bien.
D'accord. Dans leur vie quotidienne, les collaborateurs, voire les décideurs, utilisent ça dans leur vie quotidienne. On a les bons coins, on a beaucoup de choses de réemploi, et je dirais que maintenant, ça rentre dans l'entreprise, et on a des acteurs qualitatifs
Et c'est vraiment l'objectif d'avoir un monde qualitatif autour de tout ça.
Alors, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le mobilier durable. Est-ce qu'on peut déjà donner peut-être une définition de ce qu'est le mobilier durable, la plus simple possible, Martin ?
Pour moi, un mobilier durable, c'est le mobilier du client, c'est celui qui va pouvoir exister dans 2, 3, 4, 5 locaux différents, qu'on va pouvoir facilement réparer en rachetant des pièces détachées justement ou en récupérant des pièces détachées. Et puis, un mobilier durable, c'est également un mobilier qui fait appel à des matériaux recyclés qu'on va pouvoir réimplanter dans ce nouveau meuble.
Un mobilier durable, c'est un mobilier de réutilisation, on peut dire ce terme, de réutilisation ?
Ouais, principalement.
Et qui souffre peut-être d'une connotation un peu négative dans la tête des clients. Est-ce que vous avez vu sur les projets la perception d'un mobilier de réutilisation, la perception d'un mobilier durable ? Comment est-ce que c'est perçu jusque-là ? Est-ce que vous voyez aussi une évolution dans la perception ?
Alors, c'est vrai que nous, on s'est lancé juste avant le Covid. Au début, la perception, et c'est encore des freins qu'on essaie de casser aujourd'hui, c'est que, au début, on séduisait. Maintenant, depuis le Covid, il y a eu quand même un vrai passage à l'acte sur « je veux faire un projet qui soit éco-responsable et comment on le fait ». Mais la perception est encore là. Quand on approche le mobilier reconditionné et qu'on leur dit « voilà, ça, c'est un meuble reconditionné », tout de suite, les gens sont en friction à se dire « ah non, mais ça va être forcément dépareillé, ça va ressembler à quelque chose de brocante, à des meubles qu'on va s'échanger sur une aire d'autoroute ». Et du coup, tout de suite, il y a un gros froid qui se passe et on se dit « non, autant faire plus simple et aller acheter du mobilier neuf ».
Guillaume, on peut faire beau et reconditionné ?
Bien sûr. Non, c'est notre credo à nous. Et en effet, quand le sujet est de combattre les idées reçues, ou les images d'Épinal associées justement à tout ce qui a été pendant un moment écologique, responsable, vertueux et qu'on imaginait très très vite comme pas forcément de bonne qualité, en tout cas l'image qu'on avait n'était pas de bonne qualité. Notre credo a toujours été la désirabilité et comme un ressort justement pour faire adhérer les gens à ces nouvelles pratiques. C'est-à-dire qu'en effet, on ne peut plus entreprendre, concevoir du mobilier comme on le faisait il y a 10, 15, 20 ans. Parce que la considération responsable, vertueuse, écologique est nécessaire aujourd'hui, et pour des bonnes raisons, évidemment. Et du coup, on doit recevoir les messages, les craintes, les contraintes des clients. Et y avait cette partie-là de dire, ok, mais c'est pas pour moi, quoi. Et on est tous là, je pense, engagés vers une démarche ultra qualitative. Et pour rebondir sur le mot que tu employais, de dire le mobilier durable, toute la définition elle est dans ce mot. Durable, c'est que ça dure, qu'il soit nouveau, de réemploi, etc. Et le simple fait de durer, c'est une question qualitative, c'est une question d'adéquation à l'usage, c'est une question de maintenance en effet. Mais une fois qu'on a vu tout ça, la prime à la qualité, elle est évidente.
Romain, est-ce qu'on a des données? Est-ce qu'on peut essayer de quantifier un peu ce que représente le mobilier durable dans les projets des clients aujourd'hui ?
Ce qu'on sait, c'est que c'est en évolution. C'est-à-dire que la part du mobilier durable, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs définitions. C'est-à-dire que le mobilier durable peut se passer sur le réemploi du mobilier déjà présent, du mobilier de seconde main et du mobilier édité de manière éco-responsable. Donc cette part-là, elle est toujours faible par rapport à l'achat de mobilier neuf, mais elle est en constante évolution. Oui. Les données sont très récentes. C'est vrai que c'est un sujet qui est pris par les entreprises privées depuis la sortie du Covid. Les entreprises publiques, il y a déjà la loi AGEC qui impose 20% de financement, d'investissement sur du mobilier issu du réemploi. Et donc, c'est tous les thèmes qu'on vient de dire, c'est réemploi, seconde main ou éco-responsable. Mais la part de ce mobilier-là, pour l'instant, je pense qu'elle se situe, et c'est qu'un avis personnel, mais on le voit au quotidien vis-à-vis de nos clients, elle se situe aux alentours de 20-30% d'une offre globale, mais elle est en constante évolution depuis quelques temps.
Ce qui est certain, c'est que quand on vient vous voir pour un projet d'aménagement, on mentionne ou on finit par mentionner le mobilier durable, la partie mobilier durable.
Complètement. Elle est déjà maintenant très présente lors des appels d'offres et lors des demandes des clients.
Et on sent que c'est une conviction, Christophe, qui est liée à l'actualité que l'on connaît tous, le réchauffement climatique, la transition énergétique. On sent que c'est une conviction qui est liée à ça, ou on sent que les entreprises n'ont pas le choix parce qu'elles se disent qu'elles vont un moment devoir l'employer. Comment est-ce que vous le percevez ?
Alors, on a des donneurs d'ordre qui avaient déjà cette conviction qu'on pouvait accompagner avant cette période de 2021. Aujourd'hui, c'est un point de passage obligé. On ne peut plus concevoir un projet sans déjà se poser la question de ce que l'on a. Et je suis d'accord avec Romain, je te rejoins sur c'est une constante évolution, ça n'arrête pas. Nous, on est aux commandes de projets où on a des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Pourquoi ? C'est que le parc est de plus en plus renouvelé, donc on tombe sur des gisements chez nos clients qui sont de plus en plus récents. Des gisements d'objets achetés, d'immobilier acheté il y a 20-30 ans, on n'en a pratiquement plus. C'est vraiment des épiphénomènes. Maintenant, des gens qui ont déjà fait des projets il y a 3, 6, 9 ans avec le système des baux et des renouvellements de baux, bah, évidemment, on a des mobiliers qui sont de plus en plus réutilisables. Voilà, c'est vraiment cet objectif-là. Mais ils sont... Il y a à la fois les collaborateurs, il y a des engagements RSE importants hein, pour les entreprises et on ne peut plus annoncer aux 20h quand on est patron d'une boîte du CAC 40 que son entreprise va s'engager par rapport à sa production, à son cœur de métier sur des engagements très forts et de l'autre côté déménager son siège et se séparer de l'ensemble du mobilier, de ne rien concevoir sur ses propres bureaux.
Vous l'avez dit, ça peut aussi venir effectivement des collaborateurs qui poussent pour ce genre de démarche vertueuse dans l'entreprise. Vous l'avez déjà vu ça sur des projets ?
Alors, on a eu un changement aussi de verbe à l'intérieur des projets. Avant, quand on commençait d'annoncer « on va réutiliser », il y avait tout de suite une fronde. On ne nous considère pas, notre entreprise ne nous achète pas, c'est pas normal, on va encore réutiliser des objets obsolètes, on en a marre. Donc aujourd'hui c'est terminé, on n'en parle plus, on explique qu'il y a un projet, ce projet, les collaborateurs sont embarqués dans ce projet très rapidement et ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qui sont absolument réutilisables et ils le comprennent dans leur vie quotidienne, ils réutilisent tout le temps des choses. Une voiture d'occasion, c'est pas parce qu'elle est d'occasion qu'elle va pas rouler. Ben voilà, on a tout ça. Et aujourd'hui, pour nous, notre critère, c'est qu'à moins d'un mètre d'un objet, on ne doit pas se rendre compte si c'est un objet neuf ou ancien. Il faut qu'il y ait un niveau qualitatif et de service qui gomme tout ça.
Comment est-ce qu'on fait pour garantir ce niveau qualitatif et de service, Guillaume ?
Alors, nous, on est sur du mobilier neuf, c'est-à-dire qu'on va utiliser des matières recyclées qu'on aura passées au crible de plein de critères, alors que ce soit leur provenance, les process de transformation, leur transformabilité, etc., et leur qualité intrinsèque, évidemment, plus esthétique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et à partir de là, on va les faire transformer par un écosystème qui est assez similaire à celui qu'on avait avant. Donc, pour nous, encore une fois, cette démarche qualitative, elle est évidente et elle repose sur les mêmes piliers que l'industrie telle qu'on l'a connue avant ces préoccupations-là. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des différences de qualité. C'est-à-dire que c'est à nous, industriels, de faire en sorte qu'il n'y ait aucune différence. Alors il y a, j'y reviens rapidement, mais un petit doute au départ, mais le passage en showroom, les essais, les matières qu'on emploie et puis l'habitude, en effet, ou en tout cas la crainte qui petit à petit se s'éloigne, mais l'essai reste primordial, les gens s'assoient dessus, ah oui c'est confortable, ah ouais cette matière elle est incroyable, et puis le storytelling qu'on va pouvoir y ajouter est génial et participe à embarquer les collaborateurs dans ces histoires, c'est-à-dire que si l'attractivité elle se fait par le beau au départ, tout ce qui va venir après est de la valeur ajoutée. On a des matériaux, des plaques en plastique recyclé qu'on utilise parfois pour nos chaises, qui sont faits sur des filières de post-production de fabrication de pots de yaourt. Une fois que la personne s'est assise sur la chaise, l'a essayée, est confortable, se rend compte qu'elle peut travailler dessus, si on raconte l'histoire des pots de yaourt, c'est un truc qui va circuler dans toute la boîte. Et on a besoin de ces histoires-là. C'est-à-dire que à un moment, à nouveau, je rebondis là-dessus, mais quelle que soit la raison, que ce soit une raison marketing, qui au départ nous faisait bondir en disant non mais franchement c'est pas une bonne raison, ou une raison fondamentale de stratégie de l'entreprise, etc., il faut sauter dessus et c'est nécessaire.
Martin, en tant que marketplace, j'imagine que vous recevez ou vous allez chercher du mobilier de différentes qualités quand il arrive chez vous. Et comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous le retraitez, vous le refaçonnez ? Comment est-ce que après ça se passe pour ensuite le délivrer aux clients ?
Alors, c'est effectivement, on essaie de tout centraliser en fait. Dans le plus important en fait, les nerfs de la guerre là-dessus, c'est la logistique. C'est ce qui va permettre en fait au mobilier. Et d'ailleurs, c'est du même acabit pour Christophe quand il déménage les sièges. Ce qui est important en fait, c'est de bien contrôler en fait le mobilier, d'avoir un inventaire qui est précis quand on fait une récupération. Mais quand nous, on va récupérer aussi le mobilier des marchands, de bien le centraliser, de contrôler sa qualité, de le nettoyer en profondeur. Ou de demander à nos marchands, en l'occurrence, de le faire. Et puis, effectivement, il y a énormément aussi de pédagogie de l'autre côté, c'est-à-dire qu'auprès de nos clients, au-delà d'avoir une livraison qui soit hyper importante, en gants blancs, avec un nettoyage sur place, etc., pour faire en sorte que le mobilier soit le plus propre possible et qu'on se rende le moins compte que ce soit un meuble justement reconditionné, qui ait déjà eu une première vie, c'est aussi une pédagogie à avoir auprès des clients, c'est-à-dire de bien leur expliquer que ce mobilier, il a déjà eu une première vie, qu'il peut avoir un état d'usage, qu'il peut, effectivement, sur certaines partie du mobilier, par exemple un piétement présentait quelques rayures parce que voilà, il a été démonté, il a eu des frottements. Par contre, qu'un plateau sera nickel parce que c'est important d'avoir un plateau sans poc visuellement. Et là-dessus, en fait, c'est là où vraiment tout se joue, puisque finalement certains clients viennent acheter du reconditionné en ayant l'a priori de se dire finalement c'est chouette, je vais faire une bonne opportunité financière, donc je vais acheter du pas cher et je vais avoir un mobilier de super qualité. Et donc là, en fait, ils vont avoir l'impression d'acheter du neuf au prix du reconditionné. Et donc là, il va être super mécontent à la livraison, quoi qu'il arrive, parce que le moindre défaut sera une grosse erreur. Alors que finalement, quelqu'un qui a une vraie démarche d'acheter du mobilier reconditionné et qui aura eu ce discours en préalable, en fait, de justement, il peut présenter quelques petits défauts, va beaucoup mieux recevoir, en fait, ce mobilier-là.
La pédagogie, en fait, c'est peut-être la partie la plus importante, Romain ?
Complètement. On joue le rôle de conseil vis-à-vis des clients. Et lorsqu'un client vient nous interroger pour, que ce soit dans un système de contractant général, c'est-à-dire conception, parce que ça part aussi de la conception du projet, conception, travaux, mobilier, on doit jouer un conseil dès la conception et accompagner le client pour aller vers tout notre écosystème. Et l'écosystème, il est là, hein, c'est l'ingénierie de transfert et donc du coup inventorier l'actif présent et pouvoir le réemployer. Donc ça passe par énormément de discussions, d'ateliers, de pédagogie dans la marketplace de seconde main, dans la partie matériaux durables qui peut parfois avoir un coût supérieur par rapport à du mobilier de production en série standard. Donc ça passe par énormément de discussions, énormément de pédagogie et il faut absolument rassurer le client qu'il fait le bon choix.
Alors vous l'avez mentionné tout à l'heure, messieurs, il y a une partie obligation. L'État, la loi se positionne de plus en plus pour le réemploi de mobilier. Christophe, est-ce qu'on peut faire peut-être un petit état des lieux de ce qui est déjà présent en termes de législation ?
Alors aujourd'hui, la législation, c'est la loi AGEC. La loi AGEC impose un pourcentage de réemploi obligatoire sur la commande publique. Hein. C'est que le monde public qui est contraint, entre guillemets. C'est vrai que souvent, le monde public, c'est celui qui un peu donne l'exemple à un moment donné. Je pense que c'est un pourcentage qui est plutôt bien respecté. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des réductions de budget, donc le réemploi devient même obligatoire. De toute façon, nous aujourd'hui, on a plutôt des demandes de réemploi tellement importants qu'on est obligé de freiner parce que c'est plus compatible avec le mode de construction du projet. Il y a des moments où on est obligé de freiner aussi des gens qui veulent tout réemployer et c'est des fois pas concevable dans l'organisation et des livraisons de plateaux neufs. Donc ça, c'est pour le monde du public. Sur les exemples, on voit qu'ils sont contraints également sur de la papeterie, sur différents points. Hein, donc je dirais que ça, l'énorme avantage de cette obligation, c'est que les industriels se sont obligés de proposer du réemploi. Ce qui a fait changer le monde industriel, c'est qu'un fabricant de mobilier neuf, aujourd'hui, s'il souhaite rester sur des plateformes d'achat public, il est obligé d'avoir un pourcentage d'objets de réemploi dans ses catalogues. Et ça a changé complètement la donne. C'est-à-dire que la commande publique, obligeant ça, les industriels sont obligés d'avoir ça au catalogue. Et c'est vrai que ça nous a permis, nous acteurs, je dirais, de la mobilité, d'avoir eh bien, une offre. Et avoir des, comme toi Guillaume et Martin, des gens qui commencent à avoir également une réponse industrielle à une demande qui était jusqu'à présent adressée plutôt par un monde un petit peu artisanal. Nous, c'était notre problématique. Quand on a 1000, 2000, 3000 postes de travail à reconditionner rapidement, à nettoyer rapidement pour des assises, bah, il fallait qu'on ait des acteurs industriels. Et aujourd'hui, ce monde-là est en train d'émerger. Et tant mieux, parce que on augmente du coup les freins que nous avions et qu'on a toujours nous en tête sur des grands projets, bien sautent les uns après les autres. Donc c'est vraiment, ça part dans le bon sens.
D'où l'importance de la pédagogie que vous mentionniez précédemment, puisque obligation, ça peut aussi être associé à méconnaissance. Et donc vraiment très important ce travail de pédagogie, d'accompagnement. L'exemple, Christophe, vous l'avez dit, ça vient du public. À quand une application au privé ?
Alors sur le privé,
c'est réalisable un jour.
Alors sur le privé, on a les CSRD, c'est-à-dire la valorisation, la double matérialité hein, sur les bilans des entreprises. Donc c'est quelque chose qui va arriver, puisque ça devait arriver, c'était prévu début 2020, 2021, 2022. Il y a des gens qui ont réfléchi qu'il fallait peut-être un peu limiter les impacts sur l'économie, en tout cas européenne, puisque c'est des lois européennes, les CSRD, et c'est une mise en place graduelle en fonction de la taille des entreprises. Donc les gros donneurs d'ordre aujourd'hui dans notre monde actuel sont contraints dès 2025 hein, sur des résultats qui doivent remonter de leurs activités 2024. Et donc, on a des entreprises qui vont avoir à la fois une valorisation de leur structure de manière financière, comme on peut le connaître, mais également sur une autre matérialité, c'est-à-dire quel est l'impact de l'entreprise, l'impact sur ses collaborateurs, l'impact sur l'environnement, et donc pouvoir maîtriser, annoncer très clairement avec des vrais chiffres. Aujourd'hui, on a sur l'ensemble de nos clients qui sont équipés au niveau du CAC 40 avec notre solution e-déposition, tout le monde nous demande la traçabilité des immobilisations, puisque une immobilisation, c'est un objet qu'on a quelque part dans le parc de l'entreprise. On sait donner un poids carbone de cet objet-là, et c'est les enjeux de demain, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai, où c'est, est-ce que je le conserve bien, est-ce que j'ai une traçabilité de cet objet, depuis combien de temps je l'ai, est-ce qu'au bout de 2 ans je l'aurais balancé, ou est-ce qu'au bout de 2 ans il va reprendre une autre vie, il va changer de site et avoir cette traçabilité. Donc c'est ce qui est en train d'arriver.
Excellente passe décisive, merci beaucoup Christophe. Justement, j'allais parler de traçabilité. Est-ce que la mise en place de ces obligations, elle change aussi, elle doit s'accompagner de mise en place de labels, de traçabilité, d'outils pour ce mobilier ou pour les matériaux qui sont utilisés? Je me tourne vers vous, Martin et Guillaume.
Bah, pour les deux, c'est clé, c'est-à-dire que pour les mobiliers, en effet, pour la connaissance du parc. Mais l'autre avantage, je crois, de tous les labels et etc., c'est aussi on travaille avec un sujet qui est éminemment complexe. Dont la culture est assez peu répandue encore parce qu'il est relativement récent et dont les indicateurs sont très très abstraits. Si je vous dis 2 tonnes de CO2, c'est très difficile de se rendre compte. Et donc on a besoin à un moment de se calquer sur des règles, des lois, etc. Pour autant, c'est aussi un sujet sur lequel il peut y avoir des choses de sens un peu commun. Quand je parlais de durabilité tout à l'heure, le critère numéro 1 pour un mobilier ou pour quoi que ce soit, pour être écologique, c'est sa durée de vie. Voilà. Il n'y a pas d'autres critères qui soient aussi impactants. Donc si on est capable de multiplier par 2 la durée de vie, on diminue par 2 son empreinte carbone. Il n'y a pas grand-chose comme ressort qui peut être aussi fort. Et donc, dans tout ce dont on parle, c'est vraiment la clé. Donc la traçabilité va être importante parce que si ensuite on va au niveau en dessous, on va arriver à la traçabilité des matières et de savoir à un moment que la valeur résiduelle d'une matière, parce qu'on la connaît, parce qu'on connaît la matière, on peut connaître sa valeur résiduelle et donc on peut savoir ce qu'on peut en faire. Aujourd'hui, c'est assez peu encore nécessaire, mais je pense que d'ici 5, 10, 15 ans, on connaît les courbes sur l'extraction des matières premières, on connaît les courbes sur toutes ces choses-là. on a vite fait de savoir que le coût de la main-d'œuvre, il va se croiser avec le coût de la matière. Et donc, il sera nécessaire absolument de connaître la matière et de pouvoir lui donner une seconde, une troisième, une quatrième vie. Voilà. Donc, c'est ça qui est sous-jacent derrière les labels, les traçabilités, etc. C'est parfois un peu ésotérique, mais c'est un peu important. Et donc, la traçabilité, on ne sait pas toujours quelles sont les technologies qui vont le permettre.
Est-ce qu'elle est homogène déjà cette traçabilité?
Non, clairement pas. Non. Clairement pas. On est en train d'inventer ces modèles-là. Alors, à l'échelle de l'entreprise, on sait le faire parce que l'échelle de vie, elle est sur 5, 10, 15 ans. Et puis, c'est des savoirs qui sont propriétaires à l'entreprise. Et donc, en entrée d'information et en sortie d'information, on aura assez facilement l'historique. La difficulté, c'est quand l'objet ou la matière ne nous appartient plus. Comment on fait pour savoir dans 10, 15, 20 ans, qu'est-ce qui constitue cette matière, de quoi elle est faite, quelle valeur résiduelle on peut lui donner? Donc là, on fait des théories, on fait des essais, on fait je sais pas quoi, on essaie sur quelques-uns de nos produits de leur donner un certificat numérique qui fait qu'à n'importe quel moment, on peut parler à la personne à qui cet objet appartient, pour lui donner des informations sur la matière, sur la composition, sur la façon de le recycler, etc. On fait un peu un pari sur la techno. Aujourd'hui, c'est vrai que, alors je vais faire bondir du monde, mais on utilise un peu la blockchain, alors pas sur des jumeaux numériques qui n'ont aucun intérêt, mais sur une sauvegarde de l'information. C'est un test qu'on fait, on saura probablement le faire à une échelle bien plus grande plus tard, mais c'est clé. Cette information-là, elle est super clé.
On peut se dire que la technologie peut nous aider dans tous ces outils de traçabilité, de...
Oui, j'espère. C'est-à-dire que soit on le garde en papier, on fait passer un bout de papier avec un certificat à côté, ça fonctionne pour les œuvres d'art, c'est super. Mais c'est vrai que quand à l'échelle à laquelle on parle, il faut des méthodes qui soient un peu plus avancées. Et je pense que la techno, elle est nécessaire. Ouais.
Et la traçabilité, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi l'information, et je ramène ça à la pédagogie, c'est-à-dire que les salariés des entreprises ont aussi le droit à cette information. Et c'est vrai que c'est super intéressant au niveau communicationnel, parce qu'en fait, nous, par exemple, on fait des certificats pour le mobilier reconditionné de CO2 et de taux de matière première, que ça permet d'économiser justement d'acheter du mobilier reconditionné. Les salariés sont hyper réjouis en général de recevoir cette information et de se dire que il y a eu 2000 tonnes de mobilier qui n'ont pas été produits parce que justement leur entreprise a acheté justement des meubles de seconde main. Et puis sur le mobilier neuf éco-conçu comme celui de Guillaume, souvent aussi on met en place des circulaires de communication par un simple QR code ou parfois des affichettes selon ce que demandent les entreprises, où on va aller raconter en fait l'histoire de ce tabouret qui est fait à partir de plastique recyclé, ce qui permet aussi aux employés, quand ils se baladent dans les locaux, de voir qu'il y a une vraie démarche aussi environnementale qui est prise en compte par leur entreprise. Et ça aussi, ça élimine les frictions et ça fait part de bonnes choses pour faciliter l'engagement et motiver les gens à aller dans ce sens-là. Quoi.
C'est le fameux storytelling qu'on mentionnait tout à l'heure.
Exactement.
Alors, maintenant, je voudrais, Romain, vous interroger sur peut-être la différence des problématiques en fonction des tailles des entreprises. Est-ce qu'une TPE a les mêmes problématiques qu'une PME ou qu'un grand groupe en matière de mobilier?
Les problématiques peuvent être les mêmes, mais avec un volume différent. C'est surtout ça, c'est-à-dire que tout dépend le niveau d'engagement du dirigeant d'entreprise, parce que ça passe également par le dirigeant de l'entreprise, et des collaborateurs. Il y a Actineo qui a sorti sur le baromètre de la qualité de vie au travail que en 2023, 72% des actifs étaient concernés par le fait que leur entreprise utilise du mobilier de réemploi, du mobilier éco-conçu avec des matériaux durables, etc. Donc les problématiques vont se jouer à peu près de la même manière, mais sur un volume différent. Bien évidemment, j'ai réalisé un projet avec Martin pas plus tard que cette semaine, la semaine dernière. On est sur une entreprise dans le 8e arrondissement, 50 collaborateurs. Ils passent d'un étage sur le même bâtiment, ils font un transfert d'étage, ils réutilisent du mobilier, leur propre mobilier, c'est très simple, puisqu'il n'y a pas vraiment cette démarche de déménagement, mais par contre, tout le mobilier en complément, puisque l'étage est plus grand, on part sur du mobilier de seconde main, et on a travaillé avec Martin pour leur proposer quelque chose, après avoir fait un audit de leur environnement, on essaie de leur trouver des mobiliers, des solutions adaptées qui puissent compléter l'aménagement sans qu'il y ait un effet vraiment différent dans les mobiliers. Donc cette problématique-là, pour une entreprise de 50 personnes, peut s'appliquer exactement pour un grand siège du 440. Et là, on viendra chercher de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Typiquement, un inventaire pour 50 salariés, je peux le faire. Sur une entreprise de 6000 personnes, là, je vais peut-être avoir besoin de Christophe. Donc c'est vraiment une question de quantitatif.
D'accord. Christophe ?
Oui, je partage. Aujourd'hui, la grande entreprise, les problématiques sont gigantesques parce que on a quand même eu beaucoup de services centraux qui se sont réduits. Et donc, les problématiques peuvent être très importantes à gérer. Et quand on leur explique simplement comment on va le faire, et c'est surtout de l'organisation, de l'anticipation, et que ce n'est pas si compliqué que ça à faire, au final, c'est notre métier, mais l'histoire à raconter, elle est très intéressante sur, justement, on a réussi à faire ça, mais voilà par où on est passé. Je dirais que toute la clé, c'est dans l'organisation et l'anticipation. C'est là où on gagne on fait de très beaux projets. Et ça, les maîtres d'œuvre, quelquefois, et les maîtres d'ouvrage ne prennent pas cette conscience-là. Aujourd'hui, quand on fait un inventaire de gisements, il y a encore 3-4 ans, on le faisait quelques mois avant l'opération. Aujourd'hui, on intervient sur des projets 2 ans et demi avant. C'est-à-dire qu'on est 2 ans et demi avant un projet. On est la source de la conception future. On n'est plus, au fait, on va regarder ce qu'on va pouvoir bricoler, il faudra qu'on récupère 2-3 choses. C'est maintenant, voilà, la conception va se faire, voilà le gisement qu'on a, donc voilà déjà le terrain de jeu, on clôture un petit peu le terrain de jeu en disant, voilà, vous avez le droit de jouer avec notre gisement, il est là, on en réutilise ce qu'on peut, le maximum si possible, et après on voit comment on va compléter et faire... Ce que tu disais, hein, Romain, c'est évidemment compléter les choses en étant dans une cohérence de projet, évidemment. Mais oui, ils ont des belles problématiques. Hein.
Et qui sont vos interlocuteurs dans les entreprises sur ce type de projet ?
Alors, nous, les interlocuteurs, c'est la direction de l'environnement de travail qui est pleinement, concernée hein, au quotidien. Après, sur les très grands projets, on arrive sur une équipe projet qui est souvent montée avec des intervenants de la direction de l'environnement de travail et on vient leur donner les outils qui permettent d'arriver à ce qu'on veut atteindre. C'est ça l'idée.
Romain ?
On a en fonction des entreprises effectivement souvent la directrice RH ou le directeur RH bien évidemment qui peuvent être présents puisqu'il y a toute cette partie effectivement ergonomie de l'environnement de travail et donc il est important de prendre ce paramètre si les choses n'étaient pas suffisamment aux normes au préalable. Là, le directeur RH vient dans les équipes projet pour voir le futur environnement et que l'ergonomie au poste de travail soit bien respectée. On a les responsables services généraux qui sont souvent présents. C'est eux qui vont derrière faire la gestion de l'environnement de travail. Et parfois, on a des équipes managériales qui sont aussi là pour porter le message. C'est ça le plus important et la clé dans un projet d'aménagement réussi. En plus de l'anticipation, c'est d'avoir les bons interlocuteurs qui prennent les décisions. Est-ce qu'ils ont le pouvoir de prendre des décisions ? Parfois, on peut avoir un nombre d'itérations assez fortes parce qu'on avance avec une équipe et puis finalement, il faut faire revalider par une autre équipe qui n'est pas présente lors des ateliers. Donc, l'importance d'un projet réussi, c'est l'anticipation et effectivement les interlocuteurs chez nos clients qui vont avoir cette latitude de prise de décision au cours du projet.
Une question maintenant que j'aimerais qu'on aborde, parce que j'imagine qu'elle est centrale, la question du coût. Est-ce que c'est plus cher ou est-ce que c'est moins cher du mobilier durable ? Guillaume.
Je le savais. Le coût, c'est quelque chose, et je vais dire une énormité, c'est quelque chose de relatif, ça dépend de ce qu'on prend en compte. Et en particulier dans une entreprise dans laquelle le coût, ça va être un amortissement. Un mobilier qui va durer 15 ans, 20 ans, même cher au départ, il aura un coût inférieur à un mobilier qu'il faut changer tous les 2 ans. On revient à cette notion de durabilité, mais elle est vraiment clé. La deuxième chose à prendre en compte, c'est le coût global. Donc, toutes les solutions dont on parle aujourd'hui vont, en s'ajoutant, donner le coût global d'un projet. Et à partir de là, on va voir si on est à iso-coût ou... Sur un coût global, je laisserai peut-être Christophe et Romain répondre. Moi, je suis convaincu qu'on est au moins à iso-coût. Certainement un coût plus bas si on arrive à faire cette agglomération de solutions. Et le troisième paramètre, et il est totalement pas pris en compte aujourd'hui, c'est le fameux coût environnemental, qui est un peu la tarte à la crème qui va nous éclater au nez à un moment, le jour où on va dire, en fait, quand on... Ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est que quelle que soit la matière qu'on emploie aujourd'hui, cette matière est gratuite. Voilà. On paye le coût d'extraction, on paye le coût de transformation, mais la matière elle-même est gratuite. Et donc on ne paye ni le coût de cette matière, ni le coût de pour la remplacer si on devait la remettre en place. Et c'est, alors quand on parle de double matérialité, quand on parle de double comptabilité, etc., c'est des notions qui commencent à arriver. Le jour où on aura ces coûts-là qui viennent s'ajouter à un coût financier et comptable de la façon dont on le connaît aujourd'hui, ben on va s'apercevoir que on est bien moins cher. Voilà, donc c'est la réponse la plus simple que je peux faire. Et encore une fois, avoir des bonnes conditions de travail dans du mobilier confortable qui dure longtemps, qu'on est capable de maintenir pendant longtemps, etc. Bah très très vite en coût global, on est bien en cher.
Christophe, vous vouliez réagir ?
Oui. Alors aujourd'hui, on est en dessous de toute façon. Hein, je te rejoins, Guillaume. On est vraiment en dessous. C'est de l'ordre de 20 à 30% moins cher qu'un mobilier neuf. Quand on est sur du réemploi d'un gisement. Après, c'est ce que tu disais, quand moi j'aborde le CO2, je leur dis on le met de côté. Parce que de toute façon, si on commence à parler des coûts, des matériaux liés à l'environnement, le débat, on peut même plus l'avoir. Donc on le rajoutera après. Déjà, on va parler de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est en capacité de faire, des volumes et du coût associé. Et des temps et des durées et différentes choses. Et puis après, on vous dira ce que ça donne en bilan final. Mais en effet, c'est un grand changement de paradigme qu'on a eu avant 2021 et après 2021. C'est justement cette prise de conscience de dire, bon, on va vraiment donner les vrais coûts. Parce que jusqu'à présent, on avait plutôt des arguments qui étaient non, n'imaginez même pas réemployer quelque chose. De toute façon, ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter quelque chose de neuf. Regardez.
Attends, l'imaginaire, c'était un prix qui était supérieur.
Ah oui,
à...
oui, oui.
D'accord.
Oui.
Ce que Martin mentionnait tout à l'heure, le mobilier qu'on échangeait sur les aires d'autoroute. Et j'imagine que du coup, ce qu'on se dit, c'est que vu que la qualité est moindre, ça coûte moins cher. Et c'était aussi peut-être un prétexte pour utiliser le mobilier durable. Mais en fait, pas du tout.
En fait, le mobilier reconditionné, il est 30 à 50% moins cher que le même mobilier en neuf, chez nous en tout cas. C'est ce qu'on essaie de pratiquer en termes de prix. Après, effectivement, on ne sera pas moins cher qu'un IKEA. C'est-à-dire que IKEA, il est low cost dans le marché et il restera low cost. Un meuble Knoll, même à 30 à 50% de son prix, il sera jamais, il talonnera jamais un prix d'IKEA, quoi. Et souvent, les clients qui viennent acheter du reconditionné, ils espèrent aussi atteindre parfois les prix IKEA, sauf que nous, on récupère pas du mobilier IKEA, tout simplement parce que comme il était low cost à la base, il n'a aucune durabilité non plus derrière sur aller pouvoir lui donner une seconde vie, une troisième vie, quoi. Un démontage et c'est fini souvent la plupart du temps. Mais bon, l'avantage de, en fait, du coût d'une opération en mobilier reconditionné, c'est qu'on va pouvoir aller économiser aussi l'enveloppe sur tout ce qui est en volume, c'est-à-dire bureau, chaises de bureau, rangement. Les armoires, tu le mentionnais l'autre jour, apparemment les armoires c'est ce que tu vends le plus et ça coûte une fortune, alors qu'en reconditionné on les vend à des prix vraiment très abordables et en l'occurrence on en a de moins en moins besoin. Et on va pouvoir aussi du coup aller ramener en fait une plus grosse enveloppe pour tout ce qui est espace collaboratif, espace de vie, ce qui est hyper important et beaucoup plus prégnant dans les projets depuis le Covid sur les problématiques de comment ramener les collaborateurs au travail, quoi.
Effectivement. Romain, on parlait de l'impact sur le projet global. Quel est-il ?
C'est tout ce qu'on vient de dire, c'est exactement ça. Si le mobilier de seconde main, le mobilier réutilisé, le réemploi prend plus de part aujourd'hui dans nos projets, il y a forcément une notion de coût. Les entreprises veulent économiser. Donc, on en revient où le projet, la ligne budgétaire mobilier en fin de projet, bien évidemment, a diminué. Aujourd'hui, si on fait du ligne à ligne, c'est là-dessus où ça passe par beaucoup de pédagogie. Bien évidemment, quand je vais conseiller à l'un de mes clients d'aller d'acheter du mobilier Noma, il faut savoir ce qu'on compare. C'est-à-dire que ça n'arrive très fréquemment que de grandes entreprises me montrent, je remontre un mobilier Noma ou un autre fabricant et on me dit « Oh là là, c'est cher, hein, regardez ce que j'ai là ». Et là, j'arrive sur Made in Design ou... Maison du Monde Pro, et donc on compare pas du tout le même mobilier, la même durabilité, les mêmes matériaux, même si on clique sur l'onglet RSE de l'entreprise qui est montrée sur Internet, c'est pas du tout la même chose. Et donc c'est là-dessus où en fait l'accompagnement et la pédagogie est très important, parce que sur des lignes à lignes, on n'arrivera jamais à s'y retrouver, et c'est malheureusement là qu'on fait les comparatifs. Donc il faut traiter le projet d'un point de vue global. Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'un inventaire est effectué, c'est de se dire comment on peut réemployer votre mobilier parce que ça fonctionne dans votre futur site. Et donc, du coup, là, on repart avec un actif et on le fait durer dans le temps. À cela s'ajoutent bien évidemment des coûts de transfert, mais qui sont minimes par rapport à un coût d'installation de mobilier neuf avec tout ce que ça comporte. Dans le mobilier de seconde main, ce qu'on disait aussi, c'est que maintenant, les fabricants mettent des labels sur du reconditionné. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, Martin citait du Knoll, du Herman, on parle du Herman Miller, du Vitra, etc. Ce sont des grandes marques qui, le mobilier est démontable, on peut changer les pièces, etc. Et on remet une garantie de 2 ans. Donc là, même chose, vous avez un mobilier d'une grande marque, souvent signé par un designer, reconditionné avec un label de garantie 2 ans. Donc, c'est une sécurité pour le client. Et en plus de ça, on continue dans la démarche éco-responsable. Maintenant, aujourd'hui, nous, ce qui fonctionne en tant que distributeur de mobilier, bien évidemment, c'est les volumes. C'est-à-dire que si je fais du volume avec un fabricant, je vais avoir des économies d'échelle qui va pouvoir me permettre également de réduire les coûts. Mais avec toutes les nouvelles problématiques, le volume se fait de moins en moins, puisqu'on vient réintégrer toutes les solutions qu'on vient de dire. Donc, bien évidemment, les solutions proposées, maintenant, viennent contrebalancer par rapport à la vente qu'on pouvait faire à une époque. Donc, c'est hyper intéressant, mais c'est sûr que... Il ne faut pas analyser ce budget sur du designing, il faut l'analyser dans sa globalité et voir dans la durabilité, dans les coûts, etc., où est-ce qu'on en est, mais on est souvent moins cher.
Est-ce que, et Martin, c'est peut-être vers vous que je vais me tourner, parce que je me souviens qu'en préparant cette conférence, on en avait un peu discuté, est-ce qu'il y a une uniformisation du mobilier de seconde main qui est possible selon vous ?
Ça, c'est un des premiers freins, notamment sur les très gros projets, quand on commence à intéresser des gros clients qui nous interrogent pour des gros appels d'offres futurs à venir sur « Ok, on veut absolument intégrer du reconditionné, sur quoi vous pouvez répondre ?» Et là, on leur dit « Bah, en fait, on peut répondre sur tout, ils sont toujours très impressionnés. » Et d'ailleurs, en finalité, ils ne nous accordent que les lots informels parce que la réalité, c'est qu'ils ont quand même encore du mal à passer le cap sur les très très gros projets pour le coup. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on est capable d'aller sourcer justement grâce au travail que fait Christophe notamment, des gisements qui vont jusqu'à 1000-1500 postes d'un même bureau. Le tout étant de retrouver ensuite un projet sur lequel on va pouvoir le remettre, c'est-à-dire le prendre, le nettoyer et le remettre pour un nouveau client et de trouver ce client qui nous fasse confiance pour le faire. Mais on est capable d'apporter de l'uniformité, soit en prenant le projet très en amont pour pouvoir trouver le gisement qui correspond bien et le remettre dans son ensemble, ou alors aussi, grâce à la pédagogie et avec le client et les architectes, travailler sur comment on peut uniformiser, mais par niveau ou par demi-niveau, pour faire en sorte justement d'intégrer le maximum de mobilier reconditionné et d'avoir des zones qui soient uniformes.
Christophe ?
C'est essentiellement beaucoup de freins. Nous, on le voit, on a conseillé des directions immobilières en 2018 sur « oui, je veux réemployer dans le futur, c'est ma démarche ». Et on leur a expliqué qu'il y a des choses qui sont réemployables facilement, d'autres irréemployables, des choses stockables facilement, démontables, remontables, recomposables, puisque aujourd'hui, il y a des propositions de fabricants. Et on l'a vu, nous, sur la politique achat. C'est-à-dire qu'on a à un moment donné mis un stop en disant de toute façon, les plans de travail seront achetés, ça sera que ce modèle-là, et après vous travaillez autour. Ils sont agrémentables d'options, très bien, vous jouez sur les options, mais la base de la base, ça sera toujours celle-là. Et on le voit, nous on a un client qui a plusieurs centaines de milliers de collaborateurs en France, et on a maintenant des projets avec du mobilier qui devient toujours le même. Donc, les équipes sont très formées, on le démonte très facilement, on le remonte très facilement, on le recompose très facilement, et il y a ce frein-là a complètement sauté. À contrario, on a des projets où on arrive sur du mobilier, quand on le voit, déjà on a mal au crâne d'imaginer la notice de montage du mobilier, le temps que ça a dû prendre, et une fois qu'on l'a démonté, pour le remonter, vraiment on est sur des choses qui ne sont pas conçues. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est l'idée de se dire « Ok, je vais concevoir quelque chose comme Guillaume peut faire, ça sera durable. » Donc, pour être durable, il va devoir, dans sa vie, avoir plusieurs formes. Nous, on le voit, hein, quand on voit la traçabilité dans notre outil déjà, on voit que l'objet était dans une tour à la Défense, il est sorti de la tour, il est parti sur un entrepôt, il est sorti de l'entrepôt, il est allé dans une agence, il est revenu à l'entrepôt parce qu'on a déjà eu un démontage, remontage, et on a déjà des vies, on voit ce Et ce qu'on disait tout à l'heure, cette histoire qu'on peut raconter dans la traçabilité, c'est hyper important. et on le disait, quand on peut dire aux gens ce qui s'est passé sur l'objet, ou d'où il vient, ce qu'il a déjà fait, et pourquoi il est là, c'est, on a tout gagné hein, sur les projets, c'est vraiment une belle histoire.
Justement, ouais, allez-y.
S'il y a un point commun dans toutes les approches, je pense qu'à un moment, toutes ces notions dont on parle, ça devient des paramètres. Évidemment, la réponse, elle va être très fortement logistique et qu'est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre comme organisation. Mais à un moment, chez un designer, un créateur, etc., au moment où on va concevoir le projet, et là, je parle à l'échelle du projet, qui est pas le nôtre, qui est plus l'échelle du mobilier, mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va ajouter un paramètre et on va voir comment on le prend en compte pour le meilleur intérêt de l'entreprise. C'est-à-dire que on va recréer des bureaux qui doivent être conformes à une identité, à un certain niveau de confort, etc. Un des paramètres va être que on va avoir à sa disposition un gisement qui est celui-là et de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour arriver à le réutiliser. À partir du moment où ça s'est intégré, c'est plus une question. Enfin, aujourd'hui, les questions financières, on se les pose plus. On a un budget, point. On va pas dire, ah bah ouais, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Si ça rentre dans, on a besoin de 30%, de 40%, on veut que 100% du projet soit réemployé ou on veut que ce soit éco-responsable, c'est un paramètre. Et après, il y a plein de gens qui sont ultra créatifs, il suffit de leur dire, il suffit de leur... voilà. Et ça laisse là. Alors c'est nouveau comme paramètre, donc forcément il y a des frictions, forcément c'est pas simple, mais c'est aussi génial. C'est-à-dire que ça met en œuvre un petit peu de matière grise dans la tête, ça fait amener des solutions qui sont pas nouvelles, qui créent de la valeur pour l'entreprise, j'en suis convaincu à la fin, quelle que soit la solution qu'on prend. Et voilà, donc comme tout, au début, bah, c'est un peu nouveau, donc ça fait un peu peur, donc c'est un peu dur, donc c'est un peu machin. À la fin, bah, tout le monde en parle quand c'est réussi. Et les ingrédients, bah, voilà, ils sont là.
À la fin, c'est même c'est de l'attractivité pour l'entreprise en termes aussi d'image, de rétention des talents. Le thème de notre conférence, c'est aussi sur le bureau de demain, la place du mobilier durable dans le bureau de demain. L'usage dans le bureau de demain, il évolue, notamment depuis la période Covid, on l'a dit. Romain, c'est vraiment, vous sentez que l'entreprise aussi, elle est consciente de cette place du mobilier durable dans son attractivité ?
Elle en prend conscience.
Elle en prend conscience.
Elle en prend conscience. Je suis pas sûr qu'elle en soit consciente à 100%. Elle commence à en prendre conscience et elle en prend conscience par les utilisateurs. Parce que ce sont des sujets de société, c'est des préoccupations quotidiennes. On parle pour le... pour des consommations privées, on en entend parler, on le fait déjà dans le textile, on le fait déjà pour l'automobile, on le fait déjà sur plein de sujets. Les entreprises commandent à prendre ce sujet au sérieux pour le mobilier au sein des boîtes. Et donc effectivement, on en revient sur, ce sont des sujets de communication pour les entreprises, c'est pour faire venir des talents. Alors on peut faire venir des talents aussi par... un environnement avec du mobilier neuf, très designé, très pensé, etc. Mais en soi, on peut très bien faire un plateau de bureau et donner une vraie identité à un environnement de travail par toutes les solutions qu'on vient d'exposer, mobilier réconditionné, seconde main, etc., et travailler autour de ce mobilier-là. Et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que dès la conception, c'est là où les archis sont créatifs, c'est-à-dire que le mobilier est un des composants, mais derrière, donner une identité à une pièce, à un espace de travail, etc., ça passe aussi par les plafonds, par le sol, par les objets décoratifs, par toute l'âme qu'on a envie de donner à cette utilisation. Donc en fait, ça ne devrait même pas être un frein d'utiliser le mobilier de seconde main. C'est une composante de toute une conception qui doit être réfléchie avec les équipes projet et avec tout l'écosystème qu'on a autour de nous.
C'est un atout et on en prend progressivement conscience.
Exactement.
Christophe, peut-être je voudrais faire un zoom sur les solutions qui existent, parce qu'il y en a peut-être plusieurs des solutions, entre neuf éco-conçus, réemploi, reconditionné, leasing.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive, en tout cas sur les projets qu'on est en capacité de gérer aujourd'hui, avec un bouquet d'offres. Ce qui était moins le cas par le passé, où on était quand même très contraint. Et il y a quand on se posait la question, quand on réussissait à avoir un maître d'ouvrage qui se posait la question, parce qu'on a plein de gens qui ne se posent pas de questions, aujourd'hui, quand on se pose la question, on arrive à avoir une offre vraiment très complète. Alors, nous, ce qu'on essaye toujours de, et avec Romain, sur ce qu'on citait tout à l'heure, c'est déjà utiliser ce qu'on a. Alors, déjà prendre conscience de ce que l'on a, dans quel état c'est, où c'est, donc c'est déjà assez complexe, que les gens ont complètement perdu l'histoire de tout ce qu'ils avaient. Donc déjà, on vient leur montrer ce qu'ils ont et sur quoi on peut jouer. Ensuite, on peut donc le réemployer comme il est. C'est-à-dire qu'on a plein d'objets aujourd'hui qui sont fabriqués quand même avec des normes, avec des obligations qui font que c'est durable, de plus en plus durable. Ça n'a pas été le cas à un certain moment dans le passé. Même des objets neufs qui même sous garantie, lâchent. On voit même des grandes marques quand même, malheureusement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on arrive à upcycler, c'est-à-dire à garder un objet qui ne répondait pas complètement aux besoins des utilisateurs. Alors, souvent, c'est la prise de confort, c'est comment j'attache et je sécurise mon PC portable sur mon bureau, j'ai pas d'anneau d'accroche, j'ai différentes choses qu'on peut venir ramener à l'arrivée sur un upcycling de l'objet. Il y a les offres aujourd'hui d'objets qui sont accessibles en réemploi, en reuse, comme Martin sur sa plateforme, où là on peut même se dire on va compléter des gammes existantes. On est quand même sur des volumes importants, c'est ce que disait Martin. Nous, quand on démonte un IGH à la Défense, on est sur des gisements de 3-4 000 postes de travail qui ont souvent été achetés au même moment. Donc, on a quand même une gamme similaire, évidemment. Même si on vient en chercher maintenant, avant, on avait le gisement à 100% qui partait en réemploi à l'extérieur de l'organisation. Aujourd'hui, là, on a un beau projet sur la fin de l'année où on fait 100% d'une tour pour réemployer sur 100% des postes de travail, qui diminuent évidemment, vous l'imaginez bien, avec les taux de mutualisation qu'on a. Donc on divise par deux le nombre de postes de travail, mais ils réemploient tout.
Le premier gisement, il est en interne.
Il est en interne, voilà, c'est ça. C'est vraiment de se dire. Et c'est celui qui est le plus frugal dans tout, puisque si je l'avais laissé dans cette tour, de toute façon, il aurait bien fallu que je le transporte et je l'évacue. Donc on a un bilan carbone qui est divisé de moitié par rapport à je ne le garde pas. Bon, donc on peut le transférer. Et puis après, il y a toutes les offres comme Guillaume. Là, aujourd'hui, on commence à avoir des clients. On avait un client il y a très peu de temps qui se disait, mes tables de réunion, je vais renclencher cette démarche d'avoir des futures tables de réunion avec que des matériaux qui ont déjà eu une autre vie. Moi, je prends l'exemple. On a tous dans nos familles peut-être des bâtisses anciennes. Vous rentrez dans un grenier d'une bâtisse ancienne du 15e, 16e, 17e siècle, vous regardez la toiture et vous avez des morceaux qui étaient sur des charrettes, qui étaient sur des... Et on a réemployé pour refaire quelque chose. Donc ça existait, on sait le faire. Alors c'était à l'époque comme ça, parce qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir des gisements infinis. Aujourd'hui, on avait cette possibilité et demain, on s'aperçoit que les gens réfléchissent, se posent la bonne question. C'est vraiment ça l'idée.
On a perdu l'habitude de le faire et il faut le refaire. Est-ce qu'il existe, Romain, une solution toute faite pour les entreprises, ou c'est plutôt un mix de solutions qu'on leur propose, on s'adapte à leur...
C'est un mix de solutions, c'est complètement un mix de solutions. Solutions toutes faites, il y a des offres sur étagère, bien évidemment, mais un projet complet, c'est un mix de solutions échangées avec le client. Pour revenir aux différentes offres aussi, l'offre de leasing est en train de se mettre de plus en plus en place, parce que l'écosystème qu'on est en train de créer est hyper pertinente pour maintenant proposer à nos clients des offres de leasing. Ce qui se passait avant, c'était de la vente pure et dure de mobilier. On avait un actif chez soi, et puis derrière, après, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on le met à la poubelle ? Enfin, c'était souvent le cas, d'ailleurs, on le mettait à la poubelle. L'offre de leasing aujourd'hui permet, moi, en tant que distributeur de mobilier pour un client, de lui dire, on vous a fait une conception. Parmi tous les ateliers qu'on a pu réaliser avec les équipes, on pense que la meilleure implantation pour un usage précis va être celle-ci. Donc on vient mettre du mobilier. Alors ça peut être, par exemple, si on prend du mobilier neuf, on s'aperçoit qu'à terme, puisqu'on reste avec nos clients là sur la durée, on refait des bilans au bout de 6 mois. Si on s'aperçoit qu'au bout de 6 mois, cet usage ne fonctionne pas, que finalement ce n'est pas adhéré par les collaborateurs, cette offre de leasing permet de modifier son mobilier. Alors, c'est comme un leasing de véhicule, c'est-à-dire que c'est des loyers, on lisse le coût du mobilier sur plusieurs mois. Et on peut maintenant venir appeler Blue Digo en disant, on a vendu du mobilier, on va changer le mobilier, donc on va peut-être repartir sur des solutions différentes. Le mobilier qui est là, est-ce que tu peux le récupérer? Ou alors l'entreprise nous dit, est-ce que je peux le réemployer si c'est un multisite? Et dans ce cas-là, on essaie de voir comment on peut réutiliser le mobilier. Mais voilà, ça permet de faire une rotation et d'avoir des espaces évolutifs. Et donc ça, c'est de nouvelles offres aussi qui émergent. Ça fait maintenant un an ou deux que ça commence, que c'est quand même présent. Mais ça n'aurait pas été possible sans l'écosystème qui est en train de se créer avec la marketplace de seconde main, mouvement conseil avec l'inventaire du mobilier, parce que ça permet d'avoir la traçabilité de ce qu'il y a sur les plateaux. Donc voilà, c'est des choses qui c'est une multitude de solutions pour réussir un projet. Dans ça.
Martin ?
C'est d'être flexible.
Oui, non, c'est clair. Et surtout, il y avait un non-sens complet sur le côté, on loue ses locaux, on loue les flottes automobiles, ouais. On loue les systèmes informatiques, les ordinateurs de tout le monde. Par contre, tout le mobilier qui est à l'intérieur, on l'achète. Et ça, aujourd'hui, il est important qu'on commence aussi à amener des solutions là-dessus pour qu'on puisse amener de la circularité dans les aménagements de nos clients et que demain, ils puissent justement avoir des espaces qui soient à 100% rentabilisés parce qu'une salle de réunion qui avait été, comme disait Romain, pensée en mode salon, finalement, n'est pas du tout employée parce que les gens trouvent ça pas du tout confortable pour se retrouver pendant une heure de visite. Quoi.
Et ça porte, je crois, intrinsèquement la nécessité de la qualité. C'est-à-dire que s'il doit y avoir 2-3 opérations logistiques sur le même mobilier, il y a une nécessité d'un mobilier de qualité et maintenable, et oui. etc. Qui soit de réemploi ou qui soit neuf.
Ça ne s'abîme pas pendant le transport.
Toutes les notions se nourrissent et c'est ça qui est super intéressant.
En fait, il y a toute une chaîne à recréer, et qui ne fait qu'évoluer puisque les enjeux sont assez récents. On en a disséminé un petit peu pendant cette conférence, est-ce qu'on peut parler d'exemples concrets que vous avez eus récemment pour qu'on puisse illustrer tous les propos que vous avez eus là pendant l'heure qui vient déjà de s'écouler? Peut-être commencer avec vous, Christophe.
Projet récent, alors on en a plusieurs. Aujourd'hui, les problématiques qu'on a évoquées sont à 100% cochées à chaque fois sur nos projets. On est même en amont maintenant sur... comment je vais orienter un projet pour avoir ces taux dans des appels d'offres futurs sur on va garder exactement ça avec des quantités très précises. Donc ça, c'est une nouveauté. Hein, ça fait quelques mois maintenant qu'on a commencé. En revanche, un exemple très simple, hein, et ça, ça parle à tous les designers, c'est que je parlais d'un exemple sur une tour à la Défense. On a 3000 postes de travail. On va en réemployer la moitié. Quelle est notre problématique aujourd'hui? C'est que le design de ces espaces-là, c'était très drôle. On avait des fauteuils de couleurs. Alors, il y avait des étages avec des couleurs, des teintes différentes. Enfin, on avait été, c'était un arc-en-ciel complet. Et donc, le réemploi, quelle est la difficulté aujourd'hui? C'est que on veut une uniformité à l'arrivée. On veut plus ces couleurs. Donc, on est obligé aujourd'hui pour le reconditionnement, puisque c'est en cours, de tous ces sièges. Eh bien, on est obligé de changer des assises et des dossiers en rési avec la couleur qui est une couleur sobre aujourd'hui et non plus les couleurs rouge, jaune, orange, violet qu'on n'a plus trouvé. Donc c'est dommage parce qu'on aurait pu s'en passer puisque c'était réemployable en les nettoyant correctement, mais on est obligé de faire ça parce qu'on avait une idée à un moment donné et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est cette durabilité. Il faut y penser en se disant... Ok, là, j'ai un souhait qui peut être assez chamarré, très sympathique, mais demain, si j'ai besoin de réutiliser ça, est-ce qu'on va pouvoir le reprendre? En plus, avec des notions de s'il est un peu sale, quand il est de couleur, ça se voit un peu, c'est difficile. Donc voilà, c'est nos problématiques d'aujourd'hui. Donc on se dit, c'est dommage qu'on ait fait ce choix-là il y a quelques années. Donc c'est intéressant parce qu'on travaille avec des archis aujourd'hui. Et ils se disent, ah oui, mais ça, à l'époque, on n'y avait pas pensé. Parce qu'on n'avait pas cette idée de réemploi, qui aujourd'hui est partout. Donc c'est aussi un changement. C'est-à-dire que quand on leur explique, voilà, on est sur un projet avec 8000 postes de travail, déjà la conception de comment on va l'installer, avec quelle rapidité on peut l'installer, quelquefois, nous, on intervient sur des POC, en avant-projet, quand on... pour expliquer aux fabricants que ça, c'est une très mauvaise idée. Parce que sur un projet qu'ils ont à une centaine de postes de travail, on peut se creuser, on peut avoir des difficultés sur 100. Sur 1000, ça devient un problème. Et sur 8000, c'est ingérable. Voilà. Et c'est ingérable dans le temps après. C'est ça. Et donc, de donner cette vision dans le temps, c'est hyper important, je pense. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que tout le monde se pose les bonnes questions aujourd'hui.
Romain ?
Dans les exemples concrets, bah, il y a l'entreprise dont on parlait, là, qu'on a réalisée avec Martin, où c'est typiquement ça. C'est-à-dire on se pose des questions très concrètes de est-ce que je peux réutiliser mon mobilier, est-ce que je peux aussi baisser un peu la facture en cherchant des solutions qui complètent mon aménagement et via des plateformes de seconde main. Et il y a autre chose, et là, c'est pas un projet que j'ai réalisé, mais j'ai vu passer un projet, j'ai trouvé ça génial, et je pense que ça complète encore plus l'écosystème, c'est-à-dire qu'il y a un client qui a fait du mobilier, qui a réutilisé son mobilier, mais qui était complètement bien usagé, et il a utilisé, j'ai trouvé ça assez fou, une entreprise de vitrophanie, donc la vitrophanie qu'on peut avoir sur nos cloisons, pour faire du covering sur toute la partie armoire et chaise en polypropylène. Polypropylène, c'est plastique. Hein. Il a fait du covering sur l'intégralité de ces éléments-là pour les réutiliser derrière. On avait l'impression d'un projet complètement neuf. Donc, c'est-à-dire que même des entreprises qui n'ont pas, entre guillemets, d'interaction avec le mobilier en premier lien, arrivent à trouver des solutions en utilisant les matières qu'on utilise pour la vitrophanie, qui sont un peu élastiques, on peut mettre n'importe quel type de couleur, etc. Même chose, c'est des choses, matière éco-responsable, il avait fait tout un laïus là-dessus. Bah, il a réussi à faire un projet et à rentrer dans un écosystème mobile alors qu'il n'est pas issu de ce système-là. Donc je trouve ça très pertinent et c'est vraiment vers ce type de solution qu'on tend là dans les prochaines années.
Martin ?
Effectivement, bah, là, comme disait Romain, on a eu un beau projet là, qu'on a validé cette semaine. En complément, nous, on a un très très gros projet là, pour une boîte d'audiovisuel justement en loi AGEC qui nous a permis justement de remporter tous les espaces informels. Et donc bah là, on rentre vraiment dans le concret de se dire ça y a des grands groupes et à la fois aussi des grands groupes publics commencent à adhérer et le font en nous positionnant sur vraiment des zones sur lesquelles à chaque fois on va aller raconter une histoire et chaque espace va avoir sa propre histoire, son propre design. Et c'est ce qu'on va pouvoir amener aussi au travers du mobilier reconditionné, au travers du mobilier designer et au travers voilà, des designs qu'on a pu avoir dans le temps, le boss, voilà, plein de choses très sympas qu'on peut faire avec le reconditionné.
Guillaume ?
Alors, la diversité des clients est vraiment très très large. Ça va des banques aux petites bijouteries. On a aujourd'hui un échantillon très très large. On n'a pas toujours la main sur le client final, nous, parce que l'architecte ou le distributeur qui sont au milieu. Ce qu'on voit et ce qui est assez marrant, c'est que très souvent, ça commence petit et puis ça fait, y a un effet boule de neige quand même. Et puis quand on a la chance, alors parfois on va installer sur les sites et quand c'est pas loin et puis on aime bien aller voir ce qui se passe et ça arrive aussi très souvent que les clients ne soient pas au courant. Enfin, c'est-à-dire que le client, le donneur d'ordre évidemment il l'est, mais l'utilisateur ne le sait pas. Et ça nous est arrivé si on faisait l'espace de repos d'une boutique de luxe sur les Champs-Élysées. Voilà. Et donc on installe ça, on est très content, on y va, on passe tout. Donc dans ces cas-là, nous on est méconnaissable parce qu'on est plutôt en bleu de travail. Et voilà, donc ça c'est la partie cachée de l'histoire. Et donc forcément les premiers, c'est des journées un peu effervescentes parce que c'est l'ouverture du magasin, etc. Et puis il y a une présentation aux équipes. Alors ça vous plaît, machin, c'est je sais pas quoi. Ils nous disent bah oui, c'est très très beau, ah, c'est au-dessus. Et puis on commence à raconter l'histoire. Et aujourd'hui on est dans toutes ces boutiques-là. Voilà, parce que ils trouvent ça super, parce que c'est une histoire de plus qu'ils racontent. Encore une fois, on revient à ce storytelling. Et la raison principale de leur intérêt, elle est purement esthétique, créative, etc. Et puis derrière, il y a la compréhension de ce que ça veut dire, de ce que ça représente. Et là, bah, on a passé un step. Et je trouve que s'il y a une leçon, encore une fois, c'est mettre en œuvre tout ce qu'il faut, prendre en compte tous les paramètres, avoir une approche ultra qualitative. Enfin, c'est un credo mais absolu. On ne peut pas décevoir, notamment parce que c'est nouveau. On a vraiment une obligation de résultat là-dessus, et pour nous, c'est très très clair. Et voilà, et ça donne des résultats qui sont vraiment intéressants.
En fait, outre l'aspect qualitatif qui est très important, il y a un rôle qui est vraiment clé, et Romain, Christophe, je me tourne vers vous, c'est le rôle du conseil, finalement, dans toute cette approche de mobilier durable.
C'est notre premier, métier. C'est-à-dire que... Il y a de ça 15 ans, on arrivait, je n'étais pas encore dans ce milieu du mobilier, mais j'entendais des collaborateurs, des collègues de travail qui me disaient, il y a 15 ans, on arrivait chez le client, on avait nos catalogues, on ouvrait le catalogue, monsieur le client, piochait dedans, et puis on fera un aménagement avec le catalogue. Là, c'est plus ça. C'est-à-dire que vraiment, on vient chercher les problématiques, c'est vraiment, Le projet se mène forcément en co-conception avec le client. On n'arrive pas, on n'impose pas, on n'est pas en disant c'est ça qu'il vous faut, c'est-à-dire qu'on est obligé d'auditer les entreprises, c'est un vrai travail d'audit, c'est-à-dire on n'aménage pas une entreprise d'assurance comme une entreprise de textile, comme une entreprise d'industrie de la même manière. Donc c'est vraiment comprendre comment ils fonctionnent, comment les services sont en interaction les uns avec les autres. Ça passe par des longs mois de conception et d'atelier pour ensuite, derrière, accoucher d'un projet qui va répondre à ces différentes solutions. Nous, sur la partie mobilier, bien évidemment, on travaille avec la conception, etc. Mais moi, mon rôle de conseil auprès d'un client est de l'orienter dans toutes les solutions pour avoir toutes les clés du projet. Et donc, les solutions, c'est à un moment de dire, bah, voilà, vous avez peut-être des choses, est-ce qu'on peut s'en servir ? Si c'est une grosse entreprise, je n'ai pas la solution, je vais appeler Christophe. Et on va essayer d'avancer à deux, on vient rajouter un élément dans l'équation, et puis on va rajouter un autre élément, ce qui fait qu'on va réussir un projet, ça ne passe que par du conseil.
Alors, c'est du conseil, comme on le disait tout à l'heure, de la qualité, et du sur-mesure. Donc, jusqu'à présent, on avait des modèles assez industriels, on détruisait tout, on reconstruisait tout, c'est, entre guillemets, le plus simple. Aucune question à se poser, on déroule. Là, aujourd'hui, c'est dès qu'on tire chaque option, c'est une question, un questionnement, une prise de position, très bien, une explication, c'est beaucoup de pédagogie. Moi, j'ai vu des gens de direction immobilière sortir d'une réunion parce qu'on était en train de les titiller en leur disant « Mais pourquoi ? Et pourquoi ci ? Et pourquoi ça ?» Et attendez, arrêtez de me poser des questions, c'est comme ça que j'ai décidé. Bon, bah, écoutez, mais on se reparlera parce que pour moi, c'est pas acté. Donc, on va continuer. Donc c'est vraiment de se dire, on se pose les bonnes questions, et le coût humain, c'est aujourd'hui, ce que je trouve génial, c'est que chaque projet, on se remet en question, on repense quelque chose, on trouve de nouveaux acteurs, tu l'évoquais avec le covering, c'est une dinguerie, enfin, on n'imaginait pas ça il y a encore quelques années. Enfin, quand on voit du mobilier qui arrive, qui a été repeint en peinture époxy, le poste de travail, il était avec une couleur mais monstrueuse, il revient, c'est le même, on n'a rien changé, sauf que bah, les gens ne le voient même plus. Enfin, c'est très impressionnant.
Alors, pour conclure, parce que malheureusement il y a une fin, je vais vous demander à tous les quatre de répondre en une phrase à la problématique que nous avons posée au départ. Quelle est la place du mobilier durable dans le bureau de demain ?
Normalement, on a deux heures pour entrer comme ça. Et...
J'ai pas dit que c'était facile. Hein. Allez, Christophe. Je vois Christophe.
C'est une place centrale.
Non, ça, c'est ma partie.
Excuse-moi, je suis désolé. Non, voilà, c'est une position centrale. Aujourd'hui, on commence même les projets comme ça. C'est central, c'est une préoccupation centrale. Et une fois qu'on a répondu à cette préoccupation, on passe au reste.
Ouais, alors moi je vais être encore plus radical, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres solutions. Donc le mobilier, comme et il ne fait pas exception, c'est-à-dire que le mobilier doit être durable comme toutes nos réflexions doivent être durables. Voilà.
Romain ?
Finalement c'est plus dur hein, quand on est à la fin.
Il faut commencer, c'est pour ça qu'il faut le faire. Ce que j'ai l'habitude de dire, moi aussi, c'est que lorsqu'on fait un projet et qu'on accompagne le client, c'est un projet, bien évidemment, pour chaque déménagement, pour une entreprise. Je vais faire plus d'une phrase.
Oui, c'est ce que j'étais en train de tenter. Ouais,
non, mais vous avez le droit à un petit joker. Trois phrases, c'est
non, mais c'est essentiel. Et on peut réussir un projet. Il faudra toujours, pour faire les plus beaux travaux, la plus belle conception, s'il n'y a pas de mobilier à la fin, ça ne fonctionne pas. C'est primordial. Et le mobilier, c'est le reflet des entreprises, c'est le reflet de la société, c'est le reflet des utilisateurs. C'est quelque chose, on s'y sent bien, on s'y sent mal, c'est une perception, c'est du sensoriel. Donc forcément, c'est très important.
Très bien. Et je dirais que c'est essentiel, et le plus important, c'est d'embarquer l'humain avant tout dedans, et de proposer à cet humain un panel et une hybridité de solutions pour justement l'embarquer encore plus dans cette aventure.
Ouais, je sens qu'on pourrait en discuter pendant des heures et il va falloir quand même qu'on conclue cette conférence. Donc merci à tous d'être venus, merci à nos quatre intervenants surtout pour ces débats qui ont été, je crois, passionnants. Moi, j'ai pas vu passer cette heure et demie finalement qu'on a passé ensemble. Donc merci à vous. Je rappelle que cette conférence, elle sera visible sur Radio Imo, sur le site et sur l'application, et aussi sur le site de Quadrilatère. On mettra la vidéo et vous pourrez revisionner cette conférence. Merci beaucoup et très bonne journée.
Merci.
Merci Grégoire.